Bonjour à tous et à toutes, au micro David Chemla qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Je suis aujourd'hui en ligne avec Madame Colette Avital. Madame Colette Avital est une ancienne diplomate qui a été notamment consul à New York dans les années 90 et qui a été aussi députée à la Knesset du Parti travailliste et qui est actuellement secrétaire aux affaires internationales du Meretz. Bonjour Colette, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour David, à vous et à vos auditeurs.
Voilà, donc j'ai voulu aujourd'hui faire l'émission avec vous parce que nous sommes 22 ans après la date fatidique du 4 novembre 1995, à la date à laquelle a été assassiné Yitzhak Rabin. Et j'ai eu le plaisir de vous écouter la semaine dernière dans un colloque à Jérusalem, un colloque organisé par la MIDVIM, qui est un forum, un centre d'études internationales. Vous êtes revenu un petit peu sur Yitzhak Rabin, que vous avez bien côtoyé à l'époque où vous étiez d'abord au Parti travailliste et également à New York au moment des accords d'Oslo. Et donc j'ai voulu faire cette émission avec vous pour revenir sur la personnalité d'Yitzhak Rabin. Pouvez-vous déjà nous rappeler quelques souvenirs marquants de cette époque ?
Oui, c'est l'époque, bien sûr, d'une autre ouverture sur le monde, d'un Yitzhak Rabin qui vient, qui arrive au pouvoir pour une deuxième fois, un homme mûr, un homme qui a compris que le monde a changé. Je vous rappelle que le début des années 90, nous sommes après la guerre du Golfe, après la chute de l'Empire soviétique et que finalement, et le début aussi de la conférence de Madrid, donc il y a une autre ouverture et Yitzhak Rabin qui arrive au pouvoir essaye justement de donner au peuple une autre vision, une notion que non, le monde n'est pas contre nous, le monde a changé et que nous devons aussi changer et aspirer à changer la place d'Israël dans ce monde.
Tout à fait. Et donc, vous étiez à New York en 1993, lors de ces accords d'Oslo. Vous l'avez donc croisé. Quel était son état d'esprit? C'était un homme serein ou un homme plutôt tendu par l'importance de l'événement?
Oui, disons qu'entre 1993, lorsque je l'ai vu signer les accords d'Oslo, avec une certaine réticence quand même, et 1995, lorsque les choses avançaient à un pas assez rapide et que le monde s'était ouvert et qu'il y avait eu déjà des accords avec des pays qui ne nous reconnaissaient pas auparavant, donc que cette paix avait ouvert d'autres perspectives pour Israël. C'est un homme qui a changé. Alors oui, en 93, c'était pas un homme inquiet, mais un homme, bon, il a consenti, il a été dans le coup de ces accords d'Oslo, non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il a compris que c'était la chose à faire, parce qu'il y avait une occasion, parce que si nous n'avions pas traité alors avec Arafat et avec l'OLP, au bout de quelques mois, nous aurions eu affaire avec le Hamas et que sa stratégie, c'était une stratégie réfléchie. Ce qu'il souhaitait, c'était d'éliminer pour autant que possible le cercle d'ennemis autour d'Israël, c'est-à-dire le cercle immédiat des pays et des peuples pour pouvoir se consacrer, si la chose devenait nécessaire plus tard, contre ceux qui vraiment pouvaient compter pour des ennemis, l'Irak et l'Iran. Donc il y avait une stratégie réfléchie, c'était le prix à payer, c'était des risques à prendre, mais il comprenait aussi qu'Israël était suffisamment fort, il était sûr, si vous voulez, de lui-même, pas dans le mauvais sens du mot, mais avec une certaine confiance en ce qu'Israël pouvait être et ce qu'Israël pouvait répondre s'il y avait jamais des dangers.
Oui, donc c'est un engagement qu'il avait pris, mais il ne s'attendait pas à la violence que cela a suscité dans la société israélienne. 22 ans après, où en sommes-nous? J'ai lu un sondage fait par un institut que vous connaissez bien, la Fondation Bert Karlsson, que vous avez dirigé à une époque, qui montre qu'aujourd'hui, sur les messages qui circulent sur Internet en Israël, qui sont relatifs à Rabin, 46% de ces messages, environ 6 000 messages sur 13 000 qui ont été étudiés, ont des expressions de haine et de violence à l'égard de la mémoire d'Yitzhak Rabin. On le traite de traître, de criminel d'Oslo, alors que 20% des messages font l'éloge de son assassin, Yigal Amir, et demandent sa libération. Donc, que se passe-t-il dans cette société israélienne aujourd'hui, 22 ans après l'assassinat de son Premier ministre?
Une société déchirée, une société divisée, une société où une partie de cette société n'a pas appris la leçon. Ceux qui étaient les enfants il y a 22 ans sont aujourd'hui entre la quarantaine et la cinquantaine. Et il y a toute une nouvelle génération qui a été éduquée autrement. Malheureusement, nous n'avons pas appris la leçon. Et si vous voulez, à mon niveau personnel, il y a eu cette grande manif samedi passé où je n'ai pas participé parce que le motto, le thème était l'unité du peuple. Alors, ça veut dire quoi cette unité du peuple? Ce n'est pas un vrai dialogue. Nous appartenons tous à un peuple, merci, mais quand même, il aurait fallu œuvrer beaucoup davantage et certainement éduquer beaucoup davantage pour une ouverture d'esprit, pour l'acceptation de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec ses points de vue. Et je crois que ce sondage, même s'il n'indique pas, parce que c'est fait sur l'Internet et sur les médias sociaux, je ne sais pas s'il reflète vraiment ce qui se passe à ce niveau-là dans la société israélienne, mais quand même, il est inquiétant. Et je crois que c'est surtout le ministère de l'Éducation qui devrait s'en occuper autrement.
Ça ne semble pas être sa priorité, compte tenu de ce qu'on entend, en tout cas, comme
Non, la
projet
priorité
éducatif.
semble être comment devenir plus juif et comment judaïser presque tout ce qui tourne autour de nous. Et je crois que ça aussi, ce n'est pas très correct parce que nous vivons dans un pays qui est quand même un pays non religieux. Je ne sais pas si je peux dire laïque parce que laïque a un autre sens en France. Mais je crois que tout ce qui se passe à ce niveau-là, dans le système de l'éducation et un peu partout, est aussi quelque chose qui doit nous inquiéter.
Oui, ils ont une certaine vision, disons, du judaïsme, parce que c'est certes un pays juif au sens dans sa volonté d'être un État représentant le peuple juif, mais la
Bon, non,
face.
mais David, on peut avoir une vision sur le judaïsme.
Tout à
Je
fait.
suis moi-même juive, j'ai une vision sur mon judaïsme qui est certainement un peu plus large que d'aller à la synagogue. Je respecte la tradition, je respecte une très belle histoire juive avec une civilisation extraordinaire, mais ceci ne veut pas dire qu'il faut imposer à tout le monde une autre vision ou une vision spécifique. Je crois que certainement une grande partie de la société israélienne croit encore au pluralisme et que nous pouvons vivre les uns à côté des autres, chacun en respectant le Dieu qu'il aime ou pas.
Tout à fait. D'autant plus qu'il y a 20% de cette société qui est constituée d'habitants qui ne sont pas juifs, à peu près, donc qui sont citoyens israéliens et qui ont les mêmes droits de citoyens que les autres, quoi.
Absolument, absolument.
Alors, donc, quel est,
Si vous me
d'après vous,
permettez quand même de revenir
sur
sur
Rabin, oui.
Rabin, vous parlez vraiment dans cette émission sur la paix, sur le fait qu'il était vraiment engagé, qu'il voulait et que son motif réel, la vision réelle, le désir réel, c'était de laisser un autre monde plus pacifique pour les enfants et pour les petits-enfants. Mais il y a un autre aspect aussi qui est aussi important, c'est sa vision sur la société israélienne. Il nous a parlé des 20% qui ne sont pas juifs. Il se rend compte quand même, que les Arabes d'Israël n'ont pas eu les mêmes droits et les mêmes privilèges que les autres citoyens et qu'il doit faire quelque chose pour combler à la carence. Et non seulement il le dit, mais il le fait. Il double, il triple les budgets pour l'éducation, pour l'infrastructure des Arabes israéliens qui, eux, savent aujourd'hui et le disent qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui s'est tellement occupé de leurs droits que Yitzhak Rabin. Et puis il y a sa vision sur la sécurité, qui est une vision beaucoup plus large. À nouveau, ce n'est pas seulement le tank ou les missiles ou les avions, c'est aussi le toit au-dessus de la tête d'un immigrant et c'est aussi le bien-être des citoyens. Donc vous avez là quelqu'un qui a une autre vision du monde que je souhaiterais revoir dans ce pays.
Tout à fait. Donc, on en vient aux perspectives. Au même colloque où nous étions présents tous les deux, on a pu entendre l'intervention de Avi Gabay, le nouveau président du Parti travailliste élu. Est-ce qu'il vous semble, par les positions qu'il prend, pouvoir reprendre le flambeau de Rabin ?
Reprendre le flambeau de Rabin, non, je n'ai pas l'impression, parce que c'était vrai. Un être assez rare, le soldat, le chef de l'état-major, devenu citoyen, soldat pour la paix. C'est pas la même chose. Mais la question qui se pose, s'il peut vraiment être celui qui va conduire ce pays, je le souhaite de tout cœur. Je sais qu'il emploie, si vous voulez, une certaine tactique pour pouvoir jouir d'une ouverture aussi vers la droite parce que finalement c'est un politique et qu'il compte les mandats et ce qui nous manquerait peut-être aujourd'hui c'est 4 ou 5 mandats qu'il faudrait reprendre à la droite. Donc il utilise un autre vocabulaire qui est peut-être plus rassurant pour la droite. Je ne peux pas juger à l'heure actuelle mais j'espère de tout cœur, en tous les cas j'espère de tout cœur, qu'il y aurait suffisamment de force pour finalement changer et avoir un gouvernement qui représente toute autre chose, qui respecte la démocratie, qui respecte les droits de l'homme et qui non seulement souhaite, mais qui vraiment s'engage sur le chemin de la paix. Et le chemin de la paix, cela veut dire pas seulement émettre des phrases de temps à autre qui pourraient rassurer certains à l'étranger, mais il faut payer le prix.
Tout à fait. Ben, je crois qu'on va clôturer notre émission sur cette phrase. Certes, il n'y a pas d'élection en perspective, mais en tout cas, il y a un renouvellement qui commence à s'amorcer, notamment dans la société civile, on l'a vu avec toutes les manifestations, notamment du mouvement des femmes pour la paix. Merci Colette. À bientôt sur cette antenne. Bien. Dans 15 jours, pour ce qui nous concerne. Et à tous et à toutes, je souhaite Shabbat Shalom.